En Vendée, il existe 97 centres communaux d'action sociale CCAS, dont un sur l'Île-Dieu. Carole Chaouot, maire et conseillère départementale du canton de l'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Anne-Claude Kabilic, première adjointe déléguée aux affaires sociales à la mairie de l'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Et Nathalie Semelin, directrice du CCAS de l'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Anne-Claude, pouvez-vous nous rappeler quels sont les rôles et missions du CCAS, Centre Communal d'Action Sociale de l'Île-Dieu?
D'abord, il y a l'aide sociale. Donc, c'est le CCAS qui assure l'instruction administrative, qui a un rôle d'accueil des demandeurs, d'information, d'aide au remplissage des dossiers, de compilation et de validation des pièces justificatives, et après de transmission, donc par exemple au département, pour l'aide sociale à l'hébergement, à la CPAM, à la CAF, les dossiers MDPH pour les personnes handicapées. Il y a aussi une autre mission qui est la domiciliation administrative des personnes. Donc c'est les personnes qui n'ont pas de domicile stable, mais qui ont besoin d'une adresse en fin de compte pour recevoir leur courrier et accéder à leurs droits. Donc ça peut être des personnes qui vivent, dans une toile de tente, dans un bateau. Donc les CCAS doivent leur donner une domiciliation. Donc,
c'est une sorte de boîte postale. On peut appeler
On peut appeler ça comme ça. C'est pas une boîte postale, mais voilà, on fait.
Alors, dans l'idée, c'est la même chose.
Ouais, mais on reçoit pas les colis, par contre.
C'est bien de le
quand
préciser.
Même pas, parce qu'autrement, on n'aurait pas assez de place. On fait aussi de l'aide financière. Alors ça, c'est bien sûr sous couvert de la demande d'une assistante sociale qui nous demande soit un secours d'urgence, soit on peut faire des mini-crédits ou une avance, c'est-à-dire une avance remboursable, ou alors des aides vraiment qu'on donne. Donc c'est un dossier que l'assistante sociale remplit avec la personne ou les pères de la famille, et elle nous fait une demande d'aide et nous on l'instruit une fois par mois. Voilà, on a aussi de l'aide alimentaire, donc la distribution des colis alimentaires, donc c'est en collaboration avec le Secours catholique. C'est souvent l'assistante sociale qui nous adresse les personnes, et du coup on fait le lien, et avec le Secours catholique on organise la distribution du colis mensuel ou des colis d'urgence qui ont lieu tous les vendredis matins. On a aussi le logement, alors on a un logement d'urgence qui est attribué selon des critères précis. Donc ça peut être des violences conjugales, enfin voilà, c'est souvent suite à une plainte déposée à la gendarmerie. Et on fait le suivi des demandes de logements communaux en lien donc avec la mairie et des bailleurs sociaux. Mais là, pour tout ce qui est Vendée Habitat, en l'occurrence sur le territoire, fait pas l'attribution. C'est bien eux qui font l'attribution des logements. Nous, on peut être consultés. On assiste souvent en visio à leur réunion d'attribution, mais c'est pas nous qui sommes décisionnaires de l'attribution. Ça, c'est vrai que les gens, faut bien qu'ils le sachent, car on a souvent des demandes en disant « Ouais, je suis inscrit, vous pouvez passer mon dossier. » Non, c'est pas nous, et puis il y a une liste d'attente.
C'est Vendée Habitat.
Voilà, et il y a une liste d'attente assez longue, donc malheureusement, c'est vrai qu'il faut attendre assez longtemps. Et après, on a tout ce qui est animation et prévention auprès des personnes âgées. Donc, je vais pas toutes les lister, mais il y en a plein. Ça peut être des ateliers mémoire, de l'activité physique adaptée avec ciel bleu, des ateliers sécurité routière. Et on a surtout un programme gratuit d'aidants aidés avec une psychologue et une psychomotricienne qui interviennent auprès des deux personnes à domicile, donc de l'aidant et de l'aider. Et ça, c'est gratuit et il faut en faire la demande auprès du CCAS et on informera du coup la psychologue et la psychomotricienne.
Anne-Claude Kabilic, qui peut bénéficier de toutes ces différentes aides?
Alors, ça peut être des personnes seules, des familles, des personnes âgées. Voilà, toute personne en difficulté peut passer notre porte. Et bien sûr, on l'écoutera et on verra ce qu'on peut lui proposer et surtout comment l'aider.
Les personnes en difficulté, faut qu'elles passent directement par le CCAS ou qu'elles passent en amont par une assistante sociale?
Alors, si elles passent directement par le CCAS et qu'il y a besoin d'aide pour un financement quelconque, de toute façon, on la réorientera vers l'assistante sociale pour qu'elle, elle constitue le dossier. Mais voilà, ça peut être l'assistante sociale qui nous en envoie ou nous qui... Voilà, donc il n'y a pas... C'est suivant comment la personne est, on va dire, de contact ou moins peur, je sais pas comment on peut dire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur d'aller voir tout de suite l'assistante sociale. Donc voilà, ils peuvent venir, on les accompagne, il n'y a pas de souci.
Ça prend combien de temps entre le début d'une demande d'aide et la finalité?
Alors, ça dépend. Hein. Si c'est un secours d'urgence, ça peut aller très, très vite. Après, les rendez-vous avec les assistantes sociales, souvent, bah, elles viennent tous les mardis, mais c'est vrai que là aussi, il y a une liste d'attente. Mais il y a des priorités, on peut aussi les joindre par téléphone. Enfin, voilà. Si vraiment c'est urgent, on répond quand même très rapidement.
Anne-Claude Cabic, toujours, quels services et équipements sociaux gérez-vous sur l'île-Dieu ?
Alors, il y a la crèche d'abord, les deux EHPAD, il y a le portage de repas à domicile des seniors et aussi le portage pour l'école maternelle de Notre-Dame-du-Port qui est fait aussi par la résidence Les Chênes Verts. Et on a les deux chantiers d'insertion par le travail, donc un espace vert, bâtiment, et un à la recyclerie.
Les chantiers collectifs, quoi.
C'est ça.
Quelles sont vos priorités pour cette année 2025 et voire 2026?
On va continuer notre projet de prévention en addiction et limitation des risques. Alors, toute addiction à alcool et drogue.
Et ça s'adresse à tous les publics?
Ça s'adresse à tous les publics, oui. Employeurs comme personnes seules, jeunes, âgées, aidants aussi. On a quand même des structures qui viennent sur le territoire comme... France Addiction, le XAPA, Avenir Santé, et qui peuvent recevoir toutes ces personnes et les aider. Faut vraiment pas hésiter.
Faut pas hésiter si c'est une personne sent qu'il a un souci avec la drogue ou l'alcool ou un mélange des deux d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Faut pas hésiter. Ouais. C'est vrai que c'est dur, mais voilà.
Faut passer les portes, Carole.
Ouais. Et surtout aussi pour les aidants. Parce que souvent on est démunis, on voit son enfant s'enfoncer, on ne sait pas comment faire, et puis ça nous tracasse, on ne dort plus, etc. Moi je vois trop de parents qui sont dans le dénuement total par rapport à cette problématique. Donc on aide ces gens-là aussi. Il y a des psychologues qui peuvent aussi les aider, et c'est gratuit, c'est anonyme aussi. Ce ne sont pas des gens de l'île-Dieu qui les écoutent, ça c'est très important.
C'est même obligatoire.
Oui. Je trouve que voilà, c'est la confidentialité qui est de mise. Et donc, c'est dans le centre de santé. En fait, la personne, je veux dire, on ne sait pas pourquoi elle vient. Donc, voilà, c'est anonymisé complètement. Et la personne, elle est écoutée par des gens professionnels.
Écoutée et aussi soignée, non?
Alors, ça, c'est, je parle surtout des aidants. Mais bien sûr, les aider, les gens qui sont
les
malades.
Les personnes addictes.
Bien sûr. C'est le premier public, c'est bien eux hein, qu'on essaye d'aider, d'accompagner. Et bien sûr, avec tous les professionnels. Alors là, il y a souvent un relais aussi au niveau des médecins locaux, mais pas que. Ça peut être aussi un suivi que par ces personnes-là.
Donc, on a aussi deux autres projets vraiment sur cette année. C'est la mise en place d'une maison France Service. Nous, on n'en avait pas, donc on a commencé à étudier le projet il y a 2 ans.
Cette maison France Service va voir le jour quand?
On pense l'ouverture en janvier 2026. Là, on est en train de travailler dessus. La réunion qu'on avait juste avant, là, c'était ça.
Par exemple, une personne qui veut contacter la CAF, elle peut aller à cette maison France Service.
Tout à fait.
Ou la caisse primaire d'assurance maladie.
C'est ça, ouais.
C'est plus simple que de téléphoner ou envoyer un courriel.
Ah ben ça ira plus vite parce que les personnes qui travailleront dans cette Maison France Service auront des liaisons...
Feront de la formation.
Oui, et puis pourront avoir des liaisons en direct. Il y aura aussi des visios qui seront organisés. Donc voilà, c'est quand même pour faciliter toutes les démarches administratives, on va dire.
Les agents seront formés France Service, c'est-à-dire formés par les 12 opérateurs.
Quel opérateur?
Il y a l'URSSAF, il y a la CARSAT, on a parlé de la CPAM, de la CAF, il y a la MSA, France Rénov,
France Travail.
France Travail. Je ne sais pas si j'ai nommé tout le monde, au niveau administratif, effectivement, c'est quand même un panel vraiment très important. Bien sûr, tout ce qui est ANTS, les services de la préfecture, donc l'ANTS pour les cartes grises et demandes de permis de conduire, etc., en font partie, bien évidemment.
C'est vrai que ce sera plus simple d'avoir une personne physique en visio. Parce que permis de conduire, c'est un petit peu galère. Je vais dire ça comme ça.
Il y aura toujours une personne physique, déjà pour l'accueil, et qui pourra après... envoyé vers une visio. Et
cette maison de fonds en service, donc pas d'ouverture précise pour le moment, date d'ouverture
Janvier 2026. On a une date butoir quand même qui nous est un peu mise par la préfecture, donc voilà.
Cette maison France Service sera placée où sur les lieux? Est-ce que vous le savez déjà?
Au pôle économique.
Au pôle économique.
Voilà, dans les locaux de...
des Beaux-Sillons.
Voilà, c'est ça.
Anne-Claude, d'autres priorités pour cette fin d'année 2025 et début d'année 2026 peut-être
ça. Donc, on a toujours une réflexion sur l'habitat inclusif et la résidence senior ou autonomie, justement, qui ferait transfert, transition pour l'EHPAD Calypso.
On va en parler avec Carole Charot, voilà. Tout de suite, conseillère départementale et maire de l'Île-Dieu. Où en êtes-vous de la transformation de l'EHPAD Calypso en résidence autonomie, car cette compétence fait partie du CCS de l'Île-Dieu?
Alors, ça se passe plutôt bien. Les transferts de résidents de Calypso se passent comme ça doit se passer, c'est-à-dire en accompagnant bien les résidents. Au mois de mars, en tout cas, il y a des résidents qui sont en train d'être transférés. Donc, il y en a 4 pour l'instant et sur les 20 qui existent sur l'EHPAD Calypso. Mais sur les 20, je voudrais bien dire que c'est la structure médicalisée qui va disparaître. Donc l'EHPAD en tant que tel. Par contre...
Vous l'avez déjà dit sur cette antenne.
Oui, mais c'est important de le redire parce que j'entends des choses qui circulent qui ne sont pas vraies. L'établissement Calypso ne va pas fermer.
Va rester ouverte. C'est pour ça que je disais résidence autonomie à l'instant.
Alors, soit on fait une résidence autonomie, mais de toute façon, les papiers, les agréments, etc. ne vont pas être prêt pour 2025. Là, l'objectif, ça sera peut-être de faire effectivement une résidence autonomie pour 2026 ou 2027, mais là, c'est vraiment d'accompagner les résidents qui sont dans l'EHPAD Calypso pour aller vers l'EHPAD Les Chênes Verts, les plus dépendants, ceux qui veulent aussi. Pour ceux qui ne veulent pas être transférés et qui peuvent aussi rester dans les résidences Calypso, peuvent rester. C'est-à-dire qu'on accompagnera, s'ils le désirent par exemple rejoindre leurs amis au Chêne Vert, eh ben on le fera. Mais s'ils veulent rester à Calypso dans leur résidence, dans leur domicile, bien sûr que c'est possible s'ils le peuvent. C'est surtout au niveau de la dépendance. Donc ça, c'est un accompagnement individuel qui a été fait et qui continue à se faire par les infirmières, par les agents, par le directeur. Et on reçoit les familles et on discute de leurs proches. Parce que c'est bien ça qui est important, c'est l'accompagnement. C'est pour ça qu'on n'a pas donné de date butoir. On a dit que ça serait en 2025, mais on n'a pas donné de date butoir pour la fermeture définitive.
À la dernière interview, on a dit fin 2025.
Oui.
Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas. Là, c'est pareil, on va fermer la cuisine parce que, par exemple, s'il reste que 5 résidents, c'est pas possible. Donc, on va faire peut-être un portage de repas, sûrement, pour les résidents qui seront à Calypso. Tout ça, ça s'organise. On y verra plus clair, en tout cas, au mois de juin. Je propose qu'on puisse revenir ici à la radio pour expliquer là où on est.
Juin 2025, est-ce que vous entendez toutes ces craintes tout de même?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous les comprenez aussi?
Bien sûr, parce que c'est très violent pour une personne âgée de dire « Oh, je vais déménager ». Vous vous rendez compte, à 90 ans, quoi. C'est très, très douloureux quand même. Il faut bien le dire. On en est conscient, donc c'est pour ça, on écoute. Il y a une psychologue aussi qui est dépêchée sur place et qui les écoute aussi. On accompagne, on rassure. Surtout, on rassure. C'est surtout ça qui est important.
Vous nous avez parlé de 4 personnes qui sont actuellement transférées à l'EHPAD Les Chênes Verts. Les 16 autres, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Pour l'instant, c'est un point d'interrogation, non?
Non, c'est pas vraiment un point d'interrogation. Elles sont transférées au fur et à mesure qu'il y a des chambres de libre à l'EHPAD des Chênes Verts. Donc, elles sont transférées petit à petit. Et puis, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine qui, normalement, ne devraient pas être en EHPAD. C'est-à-dire qu'elles pourraient rester sur Calypso. Mais si elles veulent aller sur les Chênes Verts, on les accompagnera au fur et à mesure des chambres qui se libéreront sur les Chênes Verts.
Nathalie Semelin, directrice du CCS, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport au dire de Carole Charouf?
Oui, alors juste compléter, en fait, il y a un groupe de parole qui a été mis en place et ils nous rendent compte un petit peu justement des informations que peuvent remonter les résidents ou les inquiétudes, mis en place donc par la psychologue et l'animatrice des EHPAD, auxquelles peut participer également le directeur. Et donc là actuellement, et donc voilà, donc ça nous permet de voir un petit peu où en sont les personnes et leurs familles, parce qu'ils font part également des échanges qu'ils ont pu avoir avec leurs familles. Donc là actuellement, il n'y a plus que 15 résidents, parce qu'il y a un résident qui depuis déjà quelques mois voulait se rapprocher de sa famille parce qu'il était isolé sur l'île Dieu. Et donc, le rapprochement a eu lieu déjà il y a 10 jours. Donc, ils ne sont plus que 15 actuellement. 4 ont été transférés et puis un s'est rapproché de sa famille.
Est-ce que ces 15 résidents de l'EHPAD de Calypso sont un petit peu stressés par ces changements notables ?
Bien sûr, ils nous ont fait remonter, que ce soit les équipes ou le directeur des EHPAD, nous a fait remonter, c'est qui le prochain ? Parce qu'effectivement, au fur et à mesure, ils voient cette salle à manger.
C'est qui le prochain ? C'est tout de même violent.
Mais c'est violent, mais on ne le sous-estime pas et on en a conscience, sauf que quelle est la bonne manière ? On a écouté en fait les résidents qui souhaitaient partir au Chêne Vert sans attendre. On a écouté cette personne qui souhaitait se rapprocher de sa famille et les équipes ont fait tout pour que ça se fasse dans un temps plutôt record. Les autres personnes vont décider si elles veulent rester sur Calypso ou aller sur les Chênes Verts. Ce sera violent. On n'a pas d'autre solution que d'accompagner, que d'écouter, que d'essayer d'échanger aussi avec les familles. On ne changera pas cette violence parce que malheureusement, ils auraient voulu rester à Calypso, mais aujourd'hui, on le sait, il n'y a plus assez de personnes pour qu'on garde ces deux EHPAD. Donc, on essaie de le faire le plus humainement possible, le plus calmement possible et à l'écoute. Mais ce sera de toute façon violent dans leur ressenti.
Cet EHPAD Calypso ferme car il n'y a pas assez de chiffre d'affaires. On peut dire ça comme ça.
Alors, oui.
Oui, non.
J'aime pas trop ce
chiffre
d'affaires.
C'est pour ça que je vous laisse parler, Carole Chambeau.
Parce qu'en établissement public, on n'aime pas trop ce terme qui fait plutôt
alors.
Privé. Mais en fait, il y a un déficit croissant, de plus en plus important, parce que le nombre de résidents baisse. Pour en 2024, il y avait 82 résidents pour 104 places en tout entre les Chênes Verts et Calypso. Donc forcément, les places restantes, il faut bien les combler au niveau sous, au niveau argent, vraiment. Donc le déficit s'accroît, se creuse d'année en année. On a de moins en moins de résidents parce que les personnes veulent rester à domicile. C'est ça le souhait. Donc nous, on va fermer la structure médicalisée à Calypso, mais on va proposer autre chose à la place, c'est-à-dire faire un parcours senior, c'est-à-dire soit dans l'habitat inclusif, avec 7 logements mis à disposition pour des personnes âgées autonomes.
Qu'est-ce que vous avez appelé habitat inclusif ?
Oui, c'est des habitats pour des personnes âgées autonomes avec un animateur qui s'occupe d'eux. Voilà, tous deux, voilà, c'est des, ils sont gâtés et ils peuvent avoir aussi des services en option, par exemple le portage de repas, et puis aussi ils peuvent faire venir chez eux un kinésithérapeute, comme à domicile en fait. C'est vraiment un domicile dans une résidence, dans un établissement où il y a plusieurs logements à côté.
Et ça, ce sera à Calypso.
Et ça sera à Calypso. On a répondu à l'AMI, donc à l'appel à manifestation d'intérêt, le 15 octobre. On aura la réponse normalement au mois de juillet de cette année. Et normalement, j'ai bon espoir qu'on soit retenu. Il y a la dame du département qui est venue plusieurs fois nous aider dans la conception, etc. Donc, il y a quelques tout petits aménagements à faire, remettre en état, par exemple, les kitchenettes avec les plaques qui devront être remises aux normes. Mais c'est tout. Donc, et puis, bien sûr, l'embauche d'un animateur, la transformation.
Un gardien de nuit aussi, non ?
Alors, dans l'habitat inclusif, normalement, il n'y a pas de gardien de nuit. Mais peut-être qu'on va faire une résidence senior ou une résidence autonomie, et je pense que
c'est pas fini pour l'instant.
Ça serait peut-être le souhait. Mais tout ça, ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire, on va pas faire un truc où il y aura personne dedans. C'est ça l'enjeu. L'EHPAD, aujourd'hui, il est surdimensionné. Il y a trop de chambres pour le nombre de résidents. C'est pareil. Là, à la résidence autonomie, on va pas faire un gros truc avec un gardien de nuit, etc., etc. Et puis qu'on va avoir personne dedans parce que ce sera trop cher, parce que ce sera pas adapté. Donc tout ça, ça se construit au fur et à mesure du temps.
Cette construction sera finie quand ?
Pour l'habitat inclusif ?
Oui,
alors,
à Calypso, on rappelle.
L'habitat inclusif, ça ne sera pas une construction, ça sera vraiment les logements qui seront transformés.
C'est pour ça que je parlais de Calypso.
Donc là, ça sera vraiment presque immédiat. Quand on va avoir les sous au mois de juillet, quand on va avoir l'autorisation.
Juillet 2025, pour être précis.
Oui.
Donc on va faire les travaux, peut-être qu'en 2026, moi j'ai bon espoir peut-être. Enfin, Nathalie tout. Me fait
Nathalie
les gros Semelin. Yeux.
Nathalie Semelin.
Il faudra, disons que oui, il va falloir mener tous ces projets de front. On sait qu'entre ce que l'on souhaite et puis la réalisation de travaux, parce qu'en
ça
fait,
peut prendre du temps.
C'est ça, hier je suis allée à une réunion justement sur l'habitat inclusif et il y avait un certain nombre de témoignages d'habitat inclusif qui sont déjà en place. Ils parlaient pour des personnes âgées notamment d'avoir du mobilier qui puisse monter et descendre de manière à pouvoir adapter à des personnes en situation de handicap. Donc je me dis que le fait d'acheter, de poser tout ça, ça peut demander du temps si on s'oriente vers cela. Et puis, il y a un aménagement au niveau de la sécurité incendie pour que tous ces établissements qui vont cohabiter puissent cohabiter correctement en s'approchant du SDIS des pompiers, hein, pour qu'ils nous donnent également leurs directives. Moi, je voyais plus janvier 2027, mais si on peut le faire courant 2026, tant mieux. Mais juste, voilà, il faut un petit peu de temps pour gérer tous ces projets ensemble.
Ces projets dont on parle à l'instant, c'est des pistes de réflexion et des solutions proposées par l'étude Mazars, non ? Carole Chambouf ?
Alors, pas vraiment.
Pas vraiment, ils expliquez-nous.
L'étude Mazars a étudié le fait de réhabiliter les chênes verts et de faire soit une construction ou pas.
Et alors ?
Alors la construction est vraiment trop coûteuse. Donc,
réhabilitation.
On va plutôt se pencher sur une réhabilitation. Tout ça, c'est aussi beaucoup de sous. Hein. Ça ne sera pas gratuit, loin de là.
Réhabilitation de quel type ?
Ben, c'est-à-dire peut-être les salles de bain. C'est les salles de bain, les choses comme ça qui vont être réhabilitées pour... pas être aux normes de sécurité, parce qu'on est aux normes de sécurité, mais aux normes dans le sens où, pour les agents, que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique pour eux, pour travailler. Mettre la cuisine en haut, parce que là, c'est vraiment... Là, il est en sous-sol, c'est pas facile pour les cuisiniers et les agents de travailler. Donc, tous ces travaux vont coûter cher. Donc il va falloir les payer, remettre ça sur le loyer des résidents, donc
augmentation
du loyer. Donc faut voir l'acceptabilité de ces travaux par rapport à ce que peuvent payer les résidents.
Travaux à partir de quand ? Si vous avez une date à nous communiquer.
Non, j'ai pas de date. Franchement, je me tourne vers Nathalie, mais là j'ai pas de date.
Non, Nathalie Semelin.
Il nous faut retravailler en fait le projet qui avait été finalisé en 2022. Sur lequel on était parti, je vous le rappelle, sur 95 places d'hébergement permanent, 3 places d'accueil temporaire et 3 places d'accueil de jour. Là, évidemment, on va réviser la copie puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de demande pour correspondre à ce nombre de places. Donc, il faut qu'on le réajuste, il faut que le taux d'occupation soit près de 100% pour que cet établissement puisse s'en sortir. Et ce n'est pas qu'une question financière pour le CCS, et pour la municipalité, c'est une question financière pour les résidents qui y habitent. Parce qu'on comprend bien que des places vacantes, ben, ceux qui sont là payent pour les places vacantes et donc on est obligé de trop augmenter le prix de journée, ce qui arrive finalement actuellement. Donc du coup, il faut repartir des plans qui avaient été dressés en diminuant le nombre de chambres pour qu'on tombe d'accord sur un nombre de chambres qui correspondent aux besoins du territoire. Et puis qu'on revoie, alors c'est vrai que Carole l'a dit, les salles de bain vont être faites, les portes vont être agrandies pour qu'elles correspondent aux normes aux personnes en situation de handicap. Il y a des espaces de convivialité qui vont être réalisés autrement, puisque comme vous le savez, quand on arrive au Chêne Vert, il y a ce grand salon qui n'a rien de convivial et de confidentiel. Donc l'objectif était vraiment de créer une vraie salle d'animation et puis des petits salons. Peut-être qu'il va falloir qu'on revoie là aussi la copie, l'objectif étant que ce ne soit pas trop coûteux, mais suffisamment agréable pour que les gens aient envie d'y rester et d'y finir leur jour, comme on le sait tous. Voilà, donc tout ça, effectivement, il y aura une question d'équilibre entre le bien-être, la convivialité, le fait que les agents aient aussi des locaux à disposition qui soient plus agréables. Déjà, quand on va mettre les salles de bain avec des douches à l'italienne ou quelque chose qui y ressemble, ça va déjà changer, je pense, la vie de chacun et des résidents, des familles et surtout des agents, j'avoue. Et puis créer quelques bureaux, puisque là actuellement il y a un partage de bureaux vraiment très important qui permet pas non plus de confidentialité, par exemple pour les ressources humaines ou pour la comptabilité, et puis un certain nombre de professionnels libéraux qui interviennent dans les EHPAD et qui auraient besoin, même avec des bureaux partagés, même le médecin co, d'avoir quand même un bureau. Là on partage vraiment à de nombreux intervenants un mini bureau.
Nathalie Semelin, directrice du CCS, avant de se dire au revoir, quel est le budget du CCS de Île-d'Yeu ?
Alors là, pour 2025, on est sur 1 318 000 euros environ, avec une subvention de la mairie à hauteur de 600 000 euros. Et puis l'année dernière, au niveau des dépenses, on était sur 1 100 000 euros. Voilà, on a une politique RH qui fait que, voilà, aujourd'hui...
Politique ressources humaines, pour être
exactement, précis. Pardon, ressources humaines, qui fait que le service RH du CCS, maintenant, est localisé sur le CCS. Donc, évidemment, ça a augmenté un petit peu la masse salariale. Et puis, on a un agent qui, avant, dépendait de la commune et qui, maintenant, dépend du CCS pour intervenir dans les deux EHPAD, à la crèche, dans les locaux du CCS, puisqu'on a également un centre de consultation sur lequel on a des travaux régulièrement à faire et il peut également y intervenir.
Quelles sont les sources de financement du CCS, avant de te voir?
Alors, elles sont multiples. Donc, j'ai dit les 600 000 euros de la subvention mairie. On a un excédent là, de 2023 de près de 280 000 euros, évidemment, hein, qui dure depuis un certain nombre d'années et qui était un peu en lien avec la construction du pôle solidarité, bon, qui aujourd'hui, vous le savez, a été abandonné. On a... un peu plus de 117 000 euros d'aide d'État et du département pour nous aider à financer les chantiers d'insertion. On a 56 000 euros qui sont budgétés, qui seront payés par la mairie globalement pour toutes les interventions du chantier collectif pour la recyclerie et les espaces verts, puisque les chantiers interviennent de manière assez importante pour la mairie. On a environ 70 000 euros de l'ARS pour tout ce qui est, on en a parlé tout à l'heure, de projets de lutte contre les conduites addictives sur les 5 territoires nord-ouest Vendée.
L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé.
Tout à fait. Et ces 5 territoires, en fait, c'est nous qui sommes pilotes et qui redispatchons après les financements auprès des prestataires. Voilà, c'est l'Île-Dieu qui est pilote cette année. Enfin, pendant 3 ans, pardon. 25 000 euros par rapport au contrat local de santé. On n'en a pas tout à fait parlé tout à l'heure, mais effectivement, la mairie a la mission du contrat local de santé, mais qu'elle a délégué au CCS. Hein, donc, c'est Anouk Guinchard qui coordonne cela et qui met en lien tous les professionnels libéraux à faire venir sur l'Île-Dieu avec l'hôpital et tous les professionnels de santé. 24 000 euros sur le remboursement des frais de séjour senior. Vous savez qu'il y a un séjour senior qui se profile là au Jura. Donc, du coup, le CCS fait l'avance, mais est remboursé en partie par les seniors. Et puis, 22 500...
Par la NCV, tu
veux dire ? Par la NCV, ouais. Par les seniors, ouais, eux-mêmes, et par la NCV. Mmh. Puisqu'il y a effectivement, tout à fait exact, Carole, la NCV donc, est là pour aider les seniors qui ont des revenus un peu plus modestes. Et les seniors donnent une partie, mais la NCV en donne également une autre. Et puis, il y en a qui ne sont pas aidés et qui, du coup, remboursent la totalité de leur séjour. Par contre, le CCS garde à sa charge, et aidé bien sûr par la mairie, les frais de transport, qui sont de près de 8 000 euros cette année pour aller dans le Jura. Et puis 22 500 euros de financement par la conférence des financeurs, la CARSAT et la préfecture pour toutes les animations prévention senior qui sont réalisées, notamment par Céline Morel-Curté au niveau du CCAS.
Nathalie Semelin, directrice du CCAS de l'Île-Dieu, merci beaucoup.
Merci.
Anne-Claude Cavic, première adjointe déléguée aux affaires sociales à la mairie de l'Île-Dieu, merci beaucoup.
Juste un petit truc, c'était que pour organiser toutes ces animations, que ce soit à l'EHPAD, le transport à la demande aussi, hein, le service de transport à la demande, on a une équipe de bénévoles et je voudrais leur dire un grand merci. Mmh. Vraiment, pour nous, ils sont importants, à la recyclerie aussi. Donc vraiment, je trouve qu'à l'Île-Dieu, le bénévolat marche très bien. Merci à eux.
Carole Charot, maire et conseillère départementale du canton de l'Île-Dieu. Un dernier mot, peut-être, avant de se dire au revoir.
Oui, merci en tout cas d'avoir organisé cette émission, parce que le CCS, c'est vraiment le centre, c'est un axe fort de la politique communale. Bruno Nourry a été très attaché, et l'équipe municipale y est aussi, parce que ça fait partie de notre solidarité illaise. Le CCS, c'est vraiment le cœur, l'identité, enfin c'est le cœur qui parle, en fait, hein. Le CCS, sans nos personnes âgées, on ne serait rien. On les écoute, on prend soin d'eux. Je sais que par rapport au Covid, voilà, on a fait tout ce qu'on a pu pour les protéger. Et je crois que le CCAS, voilà, c'est presque le poumon de la mairie. Bien sûr, on a plein d'autres compétences, mais celle-ci est très très chère à nos cœurs.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus sur Neptune FM. À très bientôt. Fin.